C'est quoi ce petit sourire?
Je viens de raccrocher avec mon conseiller Carac.
Pour ton plan d'épargne retraite?
J'ai fait le point sur mes placements. À la Carac, ils ont un fonds en euros parmi les plus performants du marché, figure-toi.
Et c'est avantageux fiscalement?
Oui, je peux réduire le montant de mes impôts et je vais avoir une meilleure retraite.
Top!
Et la Carac ne me prend aucun frais sur mes versements. 0%. À la Carac, on se bat pour vous. Retrouvez toutes nos conditions générales sur carac.fr. Tout investissement présente un risque en perte de capital. La Carac, mutuelle soumise au livre 2 du Code de la Mutualité.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Nous sommes au soir du 15 juin 1969 et une grande partie des Français se trouve devant la télévision parce qu'on annonce ce soir-là le résultat du second tour de l'élection présidentielle. Il y a 30 millions d'électeurs qui étaient appelés à départager deux candidats. Celui qui représentait bien sûr le parti gaulliste au pouvoir depuis longtemps au sein de l'UDR, l'Union des démocrates pour la République, c'était Pompidou, bien sûr, Georges Pompidou. Et en face de lui, le président du Sénat, à la tête du centre démocrate, beaucoup plus centre-droit, disons, Alain Poher. La campagne s'est déroulée dans le plus grand des calmes, comme toute la journée d'élection. Les résultats sont attendus dans la soirée. Dernier sondage qui donne une confortable avance à Pompidou. Mais un sondage IFOP vient troubler le calme du clan pompidolien. Il y a 10 jours, on donnait Poher vainqueur, et vainqueur avec 55% des voix. Les Français sont donc devant leur télé et ils voient l'image de ce grand mur blanc sur lequel figure le total des suffrages décomptés. Dans la soirée, les résultats sont affichés. 69% de participation et c'est Georges Pompidou, évidemment, qui est élu président de la République avec 58% des voix, 58,21 exactement. Le clan gaulliste est satisfait, on va pouvoir se redistribuer les portefeuilles ministériels. Il y a une personne dont personne ne parle, mais à laquelle tout le monde pense, bien entendu, c'est Charles de Gaulle. Charles de Gaulle qui n'a pas participé du tout à tout ce qui vient de se passer. La campagne présidentielle de 69 est la conséquence de la démission du général un mois et demi plus tôt, à la suite de son échec au fameux référendum qui s'était tenu sur les deux thèmes de la réforme du Sénat et de la régionalisation. 2 jours plus tard, Pompidou s'était déclaré candidat. Et alors que le président du Sénat assurait l'intérim, de Gaulle avait choisi de tout de suite quitter la France pour aller s'installer en Irlande pendant quelques temps. Il n'avait pas du tout l'intention de participer évidemment à la campagne. Il y a des mauvaises langues qui disent qu'il n'avait pas l'intention de soutenir Pompidou. C'est pas aussi simple que ça. C'est vrai que les relations entre les deux hommes avaient été difficiles depuis quelques temps. Mais il ne faut pas exagérer non plus ces moments de tension. Vous savez, quand un président et un premier ministre travaillent ensemble pendant de nombreuses années. Alors c'est vrai que ça faisait un an et demi que le premier ministre Pompidou avait cédé sa place à Matignon à Maurice Couve de Murville. Mais enfin, quand on a travaillé aussi longtemps ensemble, c'est normal qu'il y ait quelques tensions. De Gaulle voulait surtout se rendre en Irlande pour s'isoler, pour tourner une grande page, pour se plonger vraiment dans l'écriture de ses mémoires d'espoir. Et il voulait ces grands décors un peu âpres de l'Irlande, dans un petit cottage où l'ancien président avait l'intention de renouer avec de lointaines racines familiales. Donc, au soir du 15 juin, De Gaulle scrute le résultat des élections. Il a voté par procuration à Colombey. Son vote est allé bien sûr à Pompidou. Quand il apprend les résultats, il envoie un message qui va arriver le soir même au nouveau président. Il écrit à Pompidou « Pour toute raison nationale et personnelle, vous adresse mes bien cordiales félicitations ». Ça pourrait sembler un peu distant, vous me direz, mais un témoignage irlandais va venir confirmer la joie profonde de Charles de Gaulle quand il a appris l'élection de Pompidou. C'est Miss Grosvenor, qui était l'intendante du fameux cottage là où résidaient les De Gaulle, où résidaient Charles et Yvonne, qui va témoigner un petit peu plus tard. Pendant son séjour au Derry Cottage, le général buvait indifféremment du vin rouge ou du vin blanc. Mais une fois exceptionnellement, il avait commandé du champagne. C'était dans les derniers jours, un peu avant son départ pour Dublin. C'était exactement pour les élections françaises, pour le succès. À partir de ce jour-là, il fut tout à fait transformé, dit Mrs. Grosvenor. Il se tenait même plus droit. Alors le journaliste qui pose la question lui dit « Mais parce que en temps normal, il était courbé ?» Oui, il était très heureux, très content, mais un peu courbé quand même. Et à partir du jour des élections, il fut un tout autre homme.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Je ne sais pas si on se met à la place de Georges Pompidou qui doit succéder au général de Gaulle, avec toute la gigantesque légitimité que lui donnait la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle, fondateur lui-même de ce nouveau régime, de cette Ve République qui avait taillé le costume présidentiel exactement à ses mesures. Et voilà que Pompidou doit s'approprier tout cela. L'élection au suffrage universel depuis 1962, c'est vrai, lui donne une grande légitimité populaire. Et il connaît absolument par cœur tous les arcanes du pouvoir. Mais ça n'est quand même pas une mince affaire. Cet homme au destin si singulier a appris. Il a beaucoup appris, il a sillonné la France pendant la campagne présidentielle et maintenant, eh bien, il va devoir succéder donc à l'homme de Colombey. D'ailleurs, De Gaulle est en train d'écrire ses mémoires d'espoir à l'époque et Pompidou sait que De Gaulle est là qui observe tout, qui scrute ce qu'il va faire. Il prend évidemment en compte tout cela sur des pages qu'il est en train de noircir et qui vont en quelque sorte entrer directement dans l'histoire. Il y a un livre qui vient de sortir, il est signé de Christophe Tardieu et de David Linard, vous savez, que l'on connaît par ailleurs parce qu'il est le président des maires de France. Ce livre des éditions de l'Observatoire s'intitule « Les leçons de Pompidou ». Et il s'agit d'évoquer la figure de Pompidou, probablement le président le moins scruté de la Ve République avant ces dernières semaines, est tellement, tellement complexe dans sa personnalité. Voici ce qu'on peut lire sur la relation qui lie l'ancien président au nouveau. « Pompidou se voulait et se sentait le fils spirituel de De Gaulle. Le général l'estimait fort, car il était l'un de ses meilleurs et plus fidèles collaborateurs, mais n'entendait pas désigner un héritier, même s'il est probable qu'à ses yeux, Pompidou était sans aucun doute le plus naturel. Pour le reste, De Gaulle, après avoir affirmé avoir éprouvé depuis longtemps sa valeur et son attachement, se borne à énumérer les nombreuses qualités de Pompidou. Aux yeux du général, pragmatique s'il en fut, considérer surtout le côté pratique des choses ne saurait être une critique. La prudence, la réserve, l'art de temporiser relevé par De Gaulle doivent être lus comme des compliments. En effet, c'est grâce à ces traits de caractère si différents de ceux du général que De Gaulle et Pompidou se sont merveilleusement complétés pour le plus grand bonheur de la France. Pompidou réside maintenant au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, en plein cœur du 8e arrondissement de Paris. Oh, il le connaît par cœur, ce palais de l'Élysée. Il est en train déjà de revêtir avec le grand cordon de la Légion d'honneur le costume présidentiel qui, à l'époque, est encore un grand habit à queue de pie. Voilà une musique ou royale ou présidentielle qui nous rappelle l'ORTF. C'est le concert spirituel sous la direction d'Hervé Niquet qui interprétait cette ouverture du Persée de Lully.
Vous écoutez Radio Classique.
Je vous propose de faire un bond d'une décennie en arrière. On est en 58. De Gaulle, donc, est en train de créer cette nouvelle constitution. Le 21 décembre, il est élu président de la République par les grands électeurs. Et pour l'événement, il doit parcourir les Champs-Élysées dans une déesse décapotable. Chose alors inouïe, il propose à un de ses proches collaborateurs de monter à ses côtés dans la voiture. Et vous avez compris que le collaborateur en question, c'est Georges Pompidou. Et tout le monde à l'époque se dit, mais qui est cet homme totalement inconnu du grand public, hein, évidemment, on ne le connaît pas plus que le chauffeur qui conduit la voiture, hein, c'est assez extraordinaire. Et les Français, dans les années qui suivent, vont apprendre à connaître ce Pompidou. En 58, ça fait quand même 14 ans qu'il est auprès du général, en tout cas qu'il le connaît bien. En 44, Pompidou enseignait la littérature au lycée Henri IV à Paris. Il avait été reçu premier à l'agrégation de lettres et sous l'occupation, on ne peut pas dire qu'il ait été résistant, mais il a souhaité rejoindre le cabinet du général dès le mois de septembre 44, hein, quand, au début du gouvernement provisoire de la République française. Il était chargé de mission sur toutes les questions d'éducation, éducation nationale. Voici ce qu'il dira sur le général dans cette période de la libération. Qui n'a pas connu cette époque ne peut imaginer ce qu'était le général de Gaulle aux yeux de ceux qui l'approchaient pour la première fois. Jusqu'alors, il était une voix qui, à la radio, disait la France. Il apparaissait comme un être de légende, un héros mythique, un personnage hors de l'ordre commun. Et tout à coup, l'image se matérialisait d'un homme au physique étrange, trop grand, avec une tête mal proportionnée à son corps, vêtu d'un uniforme de général de brigade en opération, montant d'un pas maladroit les marches qui conduisaient à son bureau, en jetant autour de lui un regard altier. Chacun, sur son passage, se figeait dans une sorte de garde à vous, mais en baissant les yeux pour ne pas voir celui qui ne devait pas être vu parce qu'il n'appartenait pas au monde des humains. Je ne connais pas beaucoup de déclarations d'admiration plus fortes que celle-là. Pendant 14 ans, Pompidou va œuvrer donc auprès du général dans son ombre. Et l'homme du 18 juin apprécie ce collaborateur très efficace, très brillant, d'une intelligence extraordinaire. Et lors de la traversée du désert du général, Pompidou, qui est devenu maître des requêtes au Conseil d'État, n'est pas très intéressé par le parti gaulliste, le RPF, qui d'ailleurs ne le voit pas d'un bon œil. Pompidou est trop indépendant. Un de ses amis lui dit d'ailleurs « Tu n'es pas bien vu de tout le monde au RPF. Rue de Solferino, il y a deux camps. Les uns se demandent s'il faut te tuer tout de suite et les autres pensent qu'il faudra le faire plus tard. » De Gaulle garde néanmoins, sans aucune distinction, toujours la même estime à Pompidou, qui quitte donc le RPF en mai 53 pour devenir banquier à la banque Rothschild. Il continue de voir De Gaulle en privé, bien entendu. Pompidou ignore complètement si un jour le général retrouvera le pouvoir. À la limite, ça paraît peu probable à l'époque en 53, mais il sait en revanche que De Gaulle en a tout à fait envie, ça c'est certain. Voici ce qu'écrit Pierre Mananti dans « Les barons du gaullisme ». Pompidou est appelé comme directeur de cabinet du général de Gaulle à la présidence du Conseil des ministres début juin 58. Il y joue alors la fidélité au camp gaulliste au cours des mois suivants en s'entourant de Focard et Guichard à Matignon, auxquels il confie le suivi du parti et des législatives en soutenant la candidature de Fray à la tête du parti et de Chaban-Delmas à la présidence de l'Assemblée nationale, enfin en recommandant Debré à Matignon. Sur le départ en février 59, à la suite de sa nomination au Conseil constitutionnel, il prend de nouveau du chant avec la vie du gaullisme. Il a participé évidemment, Pompidou, à la rédaction de la nouvelle constitution. Il est d'ailleurs nommé au Conseil constitutionnel. Il est ce qu'on appelle dans le petit marigot politique un visiteur du soir. Vous savez, on le voit souvent à l'Élysée. De Gaulle s'entretient avec Pompidou sur toutes sortes de sujets, notamment bien sûr la grande question de l'époque, hein, la question algérienne. Et c'est Pompidou qui, pour commencer des démarches avec ce qui paraissait à l'époque totalement infréquentable, va entrer en contact avec le FLN. Michel Debré, lui, est contre l'indépendance de l'Algérie, le premier ministre de l'époque. Et sa position devient de moins en moins tenable face au président. La question algérienne est le principal sujet pendant des mois. Et De Gaulle, d'ailleurs, De Gaulle est arrivé au pouvoir à la faveur de cette affaire algérienne, bien sûr. Et De Gaulle ne peut laisser à Matignon un premier ministre qui est sur ce dossier crucial en total désaccord avec lui. Et à la surprise, quand je dis à la surprise, à la stupéfaction des gaullistes, il va nommer pour remplacer Michel Debré à Matignon Georges Pompidou. La première personne que Pompidou ait dû convaincre, je vous l'ai dit l'autre jour, c'est sa femme, Claude. Quand il rentre dans son appartement de l'île Saint-Louis, il sait que son épouse va être très réticente. Il lui dit que le général de Gaulle lui a proposé Matignon. Et évidemment qu'elle est désespérée, Claude Pompidou. Elle sait exactement tout ce que ça veut dire. Mais son mari lui dit « Un tel poste ne se refuse pas, et encore moins au général. » « S'il le faut, » dit Claude en se laissant tomber dans un fauteuil du salon. Dans l'énigme Pompidou de Gaulle, voici ce qu'écrit Arnaud Tessier, qui connaît tout ça tellement bien. « Lorsque le gouvernement Pompidou est constitué, on peut lire dans la presse qu'il s'agit d'un gouvernement de transition. Le manque de notoriété du nouveau chef de gouvernement et l'omniprésence du général de Gaulle en cette période où prend fin la guerre d'Algérie, mais où l'on sait que la politique ordinaire va désormais peu à peu reprendre ses droits, font que l'événement est accueilli avec indifférence. » Les Français vont découvrir cette nouvelle figure. De Gaulle, dans ses mémoires, décrit son nouveau Premier ministre. « Georges Pompidou m'a paru capable et digne de mener l'affaire à mes côtés. Ayant éprouvé depuis longtemps sa valeur et son attachement, j'entends maintenant qu'il traite comme Premier ministre les questions multiples et complexes que la période qui s'ouvre va nécessairement poser. En effet, bien que son intelligence et sa culture le mettent à la hauteur de toutes les idées, il est porté par nature à considérer surtout le côté pratique des choses. » Tel que je suis et tel qu'il est, j'ai mis Pompidou en fonction afin qu'il m'assiste au cours d'une phase déterminée. Les circonstances pèseront assez lourd pour que je l'y maintienne plus longtemps qu'aucun chef de gouvernement ne l'est resté depuis plus d'un siècle. Et oui, Pompidou va rester à Matignon d'avril 62 à juillet 68. 6 ans, 3 mois. C'est la collaboration à l'époque la plus longue entre un président de la République, et son Premier ministre. Quelques mesures du dernier mouvement du concerto Dumbarton Oaks d'Igor Stravinsky par l'ensemble Intercontemporain sous la direction, bien sûr, de Pierre Boulez.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Bien sûr qu'il y a des désaccords entre Pompidou et De Gaulle, c'est une évidence. Mais Pompidou reste toujours extrêmement fidèle aux volontés du président. Les désunions, elles vont naître surtout au moment de mai 68, parce que là, c'est la crise profonde de la société. Pompidou pense déjà à ce moment-là à l'après De Gaulle, ne serait-ce que pour des questions d'âge. Et évidemment, il sait quel rôle va être le sien. Et il commence à penser à un nouveau cap et De Gaulle, lui, en attendant, nomme à Matignon Maurice Couve de Murville. Je cite Pierre Mananti. En retrait de la politique, l'ancien Premier ministre est sali dans le cadre de l'affaire Markovitch. À l'automne 68, certaines rumeurs circulant sur la participation de son épouse à des parties fines. Blessé de n'en avoir été averti par personne, ni l'Élysée, ni Matignon, ni le garde des Sceaux, ni même les barons gaullistes, il est un homme en colère. En janvier 69, en voyage à Rome, il annonce à un journaliste se tenir prêt à être candidat à une prochaine élection présidentielle en cas de départ du général. C'est un petit séisme politique. Les barons lui tiennent rigueur de cette déclaration qu'ils perçoivent comme une invitation à mettre en échec le référendum gaulliste sur la participation d'avril 69. Une réunion a lieu le 5 février 69. Michel Debré et Jacques Foccart voudraient que Pompidou déclare sur l'honneur qu'il ne sera pas candidat au cas où De Gaulle perdrait le référendum, mais évidemment, Pompidou n'en fera rien. Vous connaissez la suite. De Gaulle, effectivement, va perdre ce référendum. Les Français savent qu'il y a, si j'ose dire, une corde de rappel. Il démissionne dans l'heure même, bien entendu. Et 2 jours plus tard, Pompidou se porte candidat.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
Et une fois élu, il va se lancer dans toutes sortes de réformes, incarner une France plus libérale sans doute que son prédécesseur, en matière économique ça c'est sûr, mais aussi en matière socio-culturelle. Après un peu plus d'un an après son arrivée à l'Élysée, De Gaulle va mourir et la mort du général, c'est le grand choc pour toute la France. La France est veuve, comme on l'annonce le soir même à la télévision, et l'ombre du général n'allait plus dès lors planer directement sur les actions de Pompidou. Pompidou devient à son tour, pour reprendre la vieille expression de René Coty en 1958, le premier de tous les Français, n'est-ce pas ? Je voudrais donner la conclusion de cette émission à David Linard et Christophe Tardieu dans leur ouvrage « Les leçons de Pompidou ». Voici ce que Pompidou disait à propos de ce qu'il aurait aimé qu'on dise de lui. « Les peuples heureux n'ayant pas d'histoire, je souhaiterais que les historiens n'aient pas beaucoup de choses à dire sur mon mandat, pas de guerre, pas de révolution notamment. Je souhaite en revanche qu'on lise dans les manuels d'histoire que de 1969 à 1976, vous avez bien compris qu'à l'époque le président ne peut pas savoir que son mandat sera interrompu avant ça, la France a connu une période d'expansion, de modernisation, d'élévation du niveau de vie, que grâce au progrès économique et social, elle a connu la paix intérieure, que l'étranger l'a respectée parce qu'il voyait en elle un pays transformé, économiquement fort, politiquement stable et dont l'action extérieure était entièrement tournée vers la paix et le rapprochement des peuple. En un mot, que notre pays est resté fidèle à ses meilleures traditions, tout en se tournant résolument vers l'avenir et vers la jeunesse. Que mon nom soit mentionné ou ne le soit pas, n'est pas très important. Ce qui compte, c'est que mon mandat soit pour la France une période de sécurité, de rénovation, de bonheur et de dignité.
Vous écoutez Radio Classique.
Merci à Jean-Baptiste Galen d'avoir fait revivre ce couple De Gaulle-Pompidou. Et voici un autre couple de l'antenne, c'est Ferrand Morin. Donc voici Christian Morin, bonjour.
On va sortir nos mémoires très bientôt. Ah ben vous rafraîchissez la mémoire de beaucoup d'auditeurs et d'auditrices, je suppose, comme moi d'ailleurs. Et puis au milieu, il y avait... Vous parliez du mois de juillet tout à l'heure concernant la présence de M. Pompidou à Matignon.
Oui, jusqu'en juillet 68. Oui.
Il y a eu un juillet très célèbre aussi avec Marie-France Garraud.
C'était Pierre Juillet qui était à son cabinet avec Marie-France Garraud.
Marie-France Garraud, que Jacques Chaban-Delmas, que j'ai eu l'honneur d'approcher beaucoup, n'aimait pas beaucoup.
Mais moi, je l'aimais beaucoup, je l'aime toujours d'ailleurs. Oui. Et nous sommes nés dans la même rue, pour tout vous dire. Alors évidemment, ça crée des liens.
Oui, oui. Et Jacques Chaban-Delmas qui me disait toujours, vous savez, comme disait le général de Gaulle, il faut avoir de la résistance, hein, comme au rugby. Bien, mon cher Franck, alors cet après-midi, on change carrément de sujet. De Pompidou à l'ombre de Gaulle, vous allez passer à une histoire. On va avoir des nouvelles à 14h, en fait, grâce à vous, Franck, de la reine Boudica.
Ah oui, alors là, vous allez voir, nous changeons vraiment d'horizon.
Nous allons où ?
Ah ben, je vous laisse découvrir tout ça. Et voilà. Si je vous dis tout à l'avance.
Mais oui, vous avez raison. Donc, chers auditeurs, comme moi, vous attendrez 14h pour retrouver Franck. Et Franck, bien sûr, retourne demain matin avec grand bonheur. Bonne journée. Bonne journée.